Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipe est sauvage. 2 heures de bonne humeur informative pour vous, d'une compétition farouche pour eux. Vous le savez, chaque après-midi, les journalistes d'Europe 1 sont désormais en compétition. C'est le moyen qu'on a trouvé pour faire remonter les audiences. Au début de la saison, je les ai tous réunis et je leur ai dit, les gars,
les déculottés s'arrêtent maintenant. À dater d'aujourd'hui, vous jouerez comme des gagnants, agirez comme des gagnants et plus important encore, vous vous imposerez comme des gagnants.
Et de fait, 5 mois plus tard, les audiences sont remontées grâce à vous, chers auditeurs. Mais vous le savez, car on a passé une semaine à vous en parler. Même les invités étaient contents pour nous, comme David Funkinos mardi dernier.
Bonjour. Merci et bravo! Quelle remontada!
Quelle folie! Mais il y a un temps pour faire la chouille et un temps pour se remettre au boulot. C'est lundi, on va tâcher de se reconcentrer. Pour certains, ça ne sera pas facile. Je pense notamment à ma complice Eva Roth qui a été ramassée par la BAC samedi soir alors qu'elle cuvait dans une contre-allée du boulevard Rochechouart.
C'est comme si des paparazzis avaient surpris le pape dans un bordel.
Oui, 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 à peu près. Bonjour Eva.
Oh là, c'est presque vrai en fait.
Ah bon, racontez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé samedi soir?
Ah, j'ai passé un très bon week-end. Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Mais avec modération, rassurez nos auditeurs.
Avec modération, toujours. C'est Dry January.
Le dry, il est joli votre Dry January à vous. Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe ce soir à la télé ou sur les écrans. Mais d'abord, accueillons notre invité d'honneur en ce lundi. Pour vous, il est certainement José de Scène de Ménage sur M6, mais pour moi, qui ai grandi avec le Club Dorothée, il est avant tout la voix de Mister Satan dans Dragon Ball Z, l'homme le plus fort du monde qui, avant de casser des briques, hurlait.
J'ai du texte. Hein.
C'est une de vos plus belles répliques.
Je suis un acteur de voyelle, moi. Je fais pas les consonnes, hein. Je fais que les voyelles.
Frédéric Bourali, vous devez adorer qu'on vous renvoie au personnage de Mister Satan quand on connaît votre carrière.
Bien sûr, quand on a joué Shakespeare, Marivaux et tout ça. C'est ça qu'on me balance dans la gueule. Merci.
Bienvenue dans l'équipe est sauvage.
Génial.
Alors, pour les téléspectateurs d'M6, Frédéric, vous êtes évidemment avec Valérie Carcenti, José et Liliane. Ouais. Mais c'est pour une pièce que vous venez nous voir cet après-midi, le Muguet de Noël au Théâtre Montparnasse à partir du 30 janvier. Alors, par définition, c'est le 30 janvier. On l'a pas vu la pièce avec Eva. Par contre, on a pu la lire. Ouais. Et quand on se marre à la lecture d'une pièce, c'est quand même très très bon signe. Quand à chaque page on a un éclat de rire, ça sent très bon.
Ah merci, ça fout la pression.
Parce qu'on vous avez intérêt à être à la hauteur du texte.
Ouais, c'est ça. Bah oui, on va essayer de le jouer quand même. Bon là en ce moment, on a la période, on a peur. Hein. Ouais. Vraiment, on est plus souvent aux toilettes que sur scène parce qu'on est un peu effrayé. En plus, on sait qu'on est très attendu, mais avec Lionel, c'est Astier.
Vous connaissez votre texte déjà par cœur, c'est bon ? Ça y est.
Ouais.
Vous êtes sûr ?
Depuis longtemps, ouais.
Si je vous dis acte 2, vous pouvez embrayer.
Acte 2 de quelle pièce ? Parce qu'on en joue 2 en ce moment.
Alors, on va évoquer bien sûr cette pièce et Scène de Ménage, mais d'abord, mon cher Frédéric, je vous présente nos deux premiers journalistes en compétition.
Respect.
À ma gauche, un des journalistes les plus influents de cette rédaction, notre expert économie, plus fort et intègre que jamais, puisque lundi dernier, il assistait, et c'est vrai, à une formation où il a visiblement été très attentif.
Il y avait une formation corruption à Europe 1.
Non, anti-corruption.
Anti-corruption.
Je suis incorruptible. Bonjour Axel de Tarlé.
Bonjour.
Les Allemands se sont longtemps foutus de notre gueule, tout fiers qu'ils étaient de leur modèle économique. Vous êtes affirmatif, Axel, l'heure de la revanche a sonné.
Exactement. Maintenant, c'est la France qui est le premier de la classe en termes de croissance. Cette année, l'année prochaine, on aura une croissance 2 fois supérieure à celle des Allemands.
Super, j'ai demandé une augmentation, moi, au théâtre, tu vois. Voilà.
Après avoir cassé du sucre sur le dos des Allemands, nous nous en prendrons ensuite au ricain, car comme disait mon grand-père...
Ça va dans la lune avec des ordinateurs et du Coca-Cola, mais ça bouffe du gigot à la confiture.
Bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bonjour.
Vous êtes notre éditorialiste sport. Je vous croyais moins irascible que mon grand-père, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait les Américains, Virginie ?
Ils veulent nous faire une ligue fermée en football avec la Ligue des Champions. De quoi ils se mêlent ? Ils sont propriétaires de beaucoup de clubs en Europe. Et c'est pour ça qu'ils ont une influence grandissante.
Dont Marseille,
Bordeaux et dont beaucoup de clubs anglais surtout. Ouais.
Merci Virginie Fulpin. Le programme est donné, les amis. L'équipe est sauvage, peut démarrer.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Frédéric Bourali, le José de Scène de Ménage, qui nous accompagne cet après-midi. On va parler de la pièce que vous jouerez dès le 30 janvier. Mais d'abord, un mot de cette série phénomène que vous avez failli, je crois, refuser, c'est vrai ?
Non, pas du tout.
C'est un hoax qui circule sur Internet.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Gérard Hernandez. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est Gérard qui hésitait, il ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Moi, j'étais ravi. J'ai passé un casting comme un autre. J'aurais jamais imaginé, bien entendu, que ça allait avoir ce succès.
Cette pérennité,
ouais, c'est extraordinaire. Ça fait 10 ans, ouais, c'est génial.
Il n'y a pas de lassitude?
Non, parce qu'on ne tourne pas beaucoup avec Valérie. On ne tourne qu'une trentaine de jours par an, c'est très peu. Ouais. Donc il n'y a pas de lassitude. À chaque fois qu'on y va, c'est la fête.
C'est des tournages très intenses. Vous tournez beaucoup,
ouais,
d'un coup?
Alors non, c'est 30 jours, en plus 10 séminaires dans l'année. Par exemple, ça fait 3 mois qu'on n'a pas tourné parce que la production est très sympa et nous a laissé du temps pour répéter la pièce.
Alors à partir du 30 janvier, vous serez vous au Théâtre Montparnasse, ouais, dans une pièce, ouais, très drôle, on peut le dire parce qu'on l'a lu.
Merci.
Avec Eva, intitulée Le Muguet de Noël.
Merci.
Alors je raconte en quelques mots l'histoire, mais il faut pas tout dévoiler.
C'est compliqué. Ah ouais.
C'est une pièce, ouais, sur l'amitié. Vous êtes Pierre, ouais, le meilleur ami de François, ouais, interprété par l'excellent Lionel Astier, ouais, et vous soutenez, on va dire, envers et contre tout.
C'est ça,
ça va être l'axe de la pièce, quoi.
Je suis l'ami qu'il ne faut pas avoir, celui qui fout la merde, c'est qui donne des mauvais conseils et qui est là tout le temps dans ses pattes. Mais c'est un ami quand même. Et cette amitié va être quand même bien bousculée, bien mise en jeu pour des histoires de travail. Voilà. Alors, c'est très difficile de donner...
Ben oui, parce que sinon on révèle.
Ouais, si on révèle des trucs. Mais c'est très beau parce que... Mais ça, c'est la grande qualité de ces deux auteurs, Nicolas Poiret et Sébastien Blanc, avec qui on vient de jouer pendant plus de 2 ans la Deux mensonges de vérité. On a fini samedi dernier, là. On a enregistré le spectacle. Et c'est une grande écriture parce que c'est des comédies de situation, vraiment, et qui font réfléchir. Je sais, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, si vous venez.
Pas pour réfléchir non plus, puisqu'Eva a aimé la pièce, hein, donc visiblement ça peut aller. Il vous régale dans Scène de ménage. José, de son vrai nom Frédéric Bourali, va vous surprendre au théâtre. Au lieu de répéter, il passe l'après-midi sur Europe. Hein,
avec plaisir.
À suivre, il y a quelques jours à ce micro, un de nos éditorialistes politiques les plus éminents, les plus capés, Thierry Geffrotin, proposait une analyse à la fois pertinente, concise et documentée, qu'il résumait ainsi.
Voilà, les Américains nous ont tout pris.
Et s'ils étaient en train de nous prendre également le football. En tout cas, de plus en plus de clubs européens sont passés sous pavillon américain. Va-t-on vers une américanisation du foot européen? Virginie Fulpin, notre éditorialiste, en a bien peur.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Il incarne José dans Scène de ménage sur M6. Et quand on pense qu'ils ont filé l'Oscar à DiCaprio sous prétexte qu'il se bat contre un ours dans The Revenant, alors que Frédéric Bourali, notre invité, a livré un combat apocalyptique avec un plat de spaghetti bolognaise dans l'épisode 97 de Scène de ménage.
Ah, je vous l'avais dit, j'étais acteur high tech.
Acteur de voyelles et de bruitage. Une fois de plus, les ricains des mondes qui n'y comprennent rien. Ça vaut autant pour les performances d'acteurs que pour le foot. De plus en plus de clubs européens sont rachetés par des investisseurs américains et ça agace, ça court sur le haricot. It runs on the bean, comme on dit outre Atlantique, de notre éditorialiste sport Virginie Fulpin. Faut pas vous énerver, Virginie, tant qu'ils rachètent pas l'OM.
Ah bah c'est fait.
Ils sont rachetés l'OM. Patatras. Alors qu'est-ce qui se passe?
Bah en fait, ce qu'ils veulent, les Américains, c'est une ligue fermée. C'est un serpent de mer, hein, qu'on agite régulièrement dans le foot européen. Mais en fait, c'est sans doute beaucoup plus proche qu'on ne le croit parce que oui, ces investisseurs américains, ils sont de plus en plus nombreux à posséder des clubs de foot européens et que leur culture dans le sport américain, bah, ce sont ces ligues fermées.
Ah ouais, la NBA, c'est fermé. C'est vrai.
Exactement.
Y a pas,
voilà, personne ne descend, personne ne monte. Voilà, tout le monde paie, les franchises paient pour faire partie de ce championnat. Et c'est donc ce serait le but éventuel de ces investisseurs américains. En fait, ils ont commencé à investir dans le foot européen au début des années 2000. Hein. Ils ont commencé par la première ligue en Angleterre. C'est normal, c'est le championnat le plus attractif du monde, qui génère le plus d'argent. Le premier, c'est Malcolm Glazer en 2003 qui s'est offert Manchester United. À ce moment-là, ouais, c'était le plus grand club du monde. Aujourd'hui, il y a 11 clubs anglais qui sont aux mains des Américains. Ouais, mais il faut dire qu'en Angleterre, il y a tellement d'argent, c'est-à-dire que les droits télé, c'est 3 milliards d'euros, ouais, hein, c'est-à-dire 3 fois plus que ce que va être la Ligue 1. Alors qu'on a déjà beaucoup augmenté. Et puis après l'Angleterre, bah, ils se sont dit, on va aussi aller voir en France, donc l'OM, Bordeaux, et puis en Espagne, en Italie, en Allemagne, à peu près partout. Et ce qui fait leur force, en fait, à ces investisseurs américains, c'est la gestion des revenus. Ce sont des experts pour ça dans les sports américains. En revanche, le côté sportif, le foot en soi, c'est pas du tout leur culture, hein. D'ailleurs, il y a des supporters qui ont beaucoup de mal avec ces investisseurs américains, notamment ceux de Manchester United qui avaient fondé un club dissident parce qu'ils supportent... Oui, ah ouais, bien sûr, parce qu'ils ne supportaient pas en fait, de voir leur club devenir tout autre chose. L'OM en France, vous savez, quand on a entendu parler du Champions Project de Franck McCourt...
Le titre était un peu ridicule.
C'était un peu ridicule, bah, ouais, et il y en a beaucoup qui ne suivent pas. Bah, parce que le problème, c'est que le champion, pour l'instant, il n'est pas exactement là. Donc, c'est un langage qu'on connaît très peu.
Alors, le foot ne fait pas partie de la culture des investisseurs américains. Ils voudraient bien le transformer en quelque chose de plus proche des sports américains.
Oui, on parlait de la NBA, mais ouais, c'est pareil pour le foot américain, pour le baseball, etc. C'est-à-dire que chaque club fonctionne comme une entreprise. Et donc, il voudrait que le foot s'inspire de cette façon de fonctionner. Il pensait que c'était rentable au départ, ça l'est. Donc là, maintenant, il passe à la vitesse supérieure. Il y a beaucoup de discussions avec l'UEFA, avec la FIFA. Pour l'instant, il y a encore des réticences de la part des instances du foot.
Tu m'étonnes.
Mais on en parle quand même de plus en plus. Là, c'est revenu ces derniers jours. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner ? La création, par exemple, au niveau européen, de divisions, mais au niveau européen, avec 20 équipes chacune, venues des 5 grands championnats. Et puis, on inviterait, par exemple, l'Ajax Amsterdam ou le FC Porto en plus. Et puis, comme ça, ça permettrait d'avoir des affiches assez splendides toute l'année. Forcément ça rapporte beaucoup plus d'argent. Ou sinon, il y a aussi une réforme juste de la Ligue des Champions. Là, ça pourrait arriver très très vite. C'est-à-dire qu'il faut aussi plus de matchs de Ligue des Champions. Donc,
mais on dit déjà que les calendriers sont surchargés, que les joueurs jouent trop. Mais
oui,
alors,
bien
plus
sûr.
De matchs de Ligue des Champions.
Oui, mais en fait, ça pourrait être plus de matchs de Ligue des Champions, c'est-à-dire 17 au lieu de 13 actuellement. Et puis, on mettrait les équipes B pour les championnats locaux, en fait, ce qu'on appellerait les championnats locaux.
Il n'y aurait plus de Coupe de France, il n'y aurait plus,
Sans
place.
Sans doute que si, mais on ne ferait pas jouer du tout les mêmes, joueurs.
Serait
donc, ce serait un peu dévaloriser les championnats locaux. C'est pour ça que ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment, y compris à des grands entraîneurs, je pense à Jürgen Klopp à Liverpool, qui ne supportent pas ça. Mais entre le sportif et l'économique, je ne suis pas sûre que le sportif gagne à la fin.
On remercie Virginie Fulpin. Votre chronique aura-t-elle intéressé nos auditeurs et notre invité Frédéric? Il finit ses bolos, il pourrait répondre vers 18h. À suivre, attention, scoop time. Oui, quand j'interview une star, allez savoir si c'est mon charisme, le travail de recherche que j'effectue en amont, j'obtiens toujours des infos exclusives, comme avec Thibaut de Montalembert, l'acteur de la série 10% vendredi. Thibaut de Montalembert, vous incarnez Mathias de Barneville dans l'excellente série de France 2 10%. Quel guest dans la saison que vous êtes en train de tourner, qui est peut-être terminé d'ailleurs le tournage?
Non, c'est en fin de tournage.
Est-ce que vous pouvez déjà nous révéler qui y aura dans cette saison?
Bah oui, parce qu'on en a déjà parlé.
Bah oui, en fait, c'était partout dans la presse depuis 3 semaines. J'essaierai de faire un peu mieux avec vous, Frédéric Bourali. José de Scène de Ménage, juste après Mary J. Blige, Family Affair sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures de castagne entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 et aussi parfois quand l'invité a mauvais fond, entre moi et l'invité. Comme le sarcastique Thibaut de Montalembert vendredi qui a cru bon de signaler à la France entière que j'avais un peu pris au cours des derniers mois et hélas pas qu'en audience. Un camembert contient 50% d'eau.
Mais j'en mange pas, je m'en fous. Mais...
Ah ben moi j'en mange beaucoup et...
Ah c'est ça alors.
Alors aujourd'hui, espérons que Frédéric Bourali, notre José de Scène de Ménage, soit un peu moins corrosif. Regardez, je suis fin comme un roseau,
magnifique.
Pas vrai, va Bon, parlons plutôt de vous, Frédéric Bourali. Vous avez une longue carrière sur laquelle nous allons revenir, mais est-ce que ça vous vexe pas que, comme moi d'ailleurs, cet après-midi, je dise tout le temps Frédéric Bourali, alias José de Scène de Ménage? Alors effectivement, c'est le rôle qui vous a rendu très populaire, mais vous avez, on en parlait hors antenne, une longue carrière avant ça. Vous avez joué des grands rôles.
Mais ça ne m'a pas vexé, c'est un cadeau de la vie, ça, par l'acteur. C'est formidable. Non, c'est merveilleux. Écoutez, ça m'est tombé dessus vraiment à l'insu de mon plein gré. Mais en plus, c'est un personnage que j'adore. Tout va bien.
Et que les gens adorent. Hein. Le personnage de José, c'est un des plus aimés dans cette série, finalement.
On a, avec Valérie Carcenti, ma camarade que j'aime beaucoup, on est très gâtés par rapport au public. Et je le vois quand on est en tournée là au théâtre. Je suis en tournée depuis 1000 ans, j'ai l'impression. Le retour est incroyable. Quoi. Les gens nous disent merci. Merde, c'est quand même formidable. Faire un métier où les gens nous disent merci. Merci de quoi? Je ne suis pas infirmier, moi. Je suis pas... C'est formidable.
La complicité avec Valérie Carcenti, vous l'avez eue tout de suite?
Tout de suite, oui.
Immédiatement, ça s'est fait.
À la demi-seconde. Je me souviens très bien des essais, il y a 10 ans, mais je m'en souviens très très bien. J'ai fait des essais avec des comédiennes formidables, mais vraiment, à chaque fois que je sortais, je disais à ma femme, bon alors ça sera elle, c'est sûr, elle est géniale. En plus des nanas que je connaissais, des gens même très connus. Et puis un jour, Valérie est arrivée. C'est comme en amour, hein. C'était le coup de foudre artistique.
Oui, mais justement, j'allais vous parler de ça. On se souvient d'Alexandra Lamy et Jean Dujardin à l'époque. Votre femme, que vous appeliez pour lui dire « Ah, elle est formidable, elle est formidable, il se passe un truc. » Est-ce qu'à un moment, elle n'a pas peur qu'il se passe vraiment un truc?
Non, moi j'ai baisé toutes les autres actrices, mais pas elle. Non, je déconne. Non, je dis pas vrai, mais non. Non, c'est pas. Non, je me suis trompé. Non, c'est pas vrai, mais non. Non,
bien sûr
que non.
Bien sûr.
Non.
Et avec Lionel Astier?
C'est aussi,
Non, parce que vous parliez de complicité.
Ouais.
C'est vrai que vous en avez une énorme aussi avec Lionel Astier dans cette pièce.
C'est une grande chance, ça. C'est une grande chance.
Dans cette pièce, le Muguet de Noël. Ouais. Vous vous connaissez très bien aussi.
On s'était rencontrés, on avait tourné un truc ensemble pour France 2. Je me souviens qu'il se passait à l'Opéra de Paris. C'était formidable. On s'était très très bien entendu tout de suite. Mais ça, c'est pareil, ça se commande pas. Et puis sur la pièce de Mensonge de vérité, ça a été un bonheur pendant 2 ans et demi. Et là, on se retrouve avec joie. Alors, on est un peu dans une espèce de machine à laver parce qu'on termine, même, on n'a même pas le temps de terminer l'autre pièce, qu'on enchaîne l'autre. Là, on est un peu dans un truc. Mais c'est une grande chance de travailler avec lui. Puis il y a Jean-Luc Porras qui était absolument génial, que je connais depuis très longtemps. Et Alexis Rib, qui est super.
Le Muguet de Noël est écrit par les mêmes auteurs
Nicolas
que
Poiré.
Voilà,
ouais, Nicolas Poiré, le fils de l'illustre Jean Poiré. Précisons-le.
Ah, Sébastien Blanc. C'est à se demander s'ils n'ont pas écrit cette pièce en pensant vraiment à vous et donc à écrire les dialogues pour vous.
Ouais. Bah, c'est un peu ça.
C'est ça.
Il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pendant qu'on jouait, qu'on était très heureux sur De mensonges de vérité, au Rive Gauche, je les ai appelés, je leur ai dit, les gars, si par hasard, mais vraiment, sans le faire exprès, vous aviez l'idée de faire une pièce avec nous, franchement, on ne serait pas contre. Comme ils sont des gens assez extraordinaires, 3 mois après, ils ont envoyé la pièce. Quoi. C'était très émouvant. Et on l'a lu, puis évidemment, ce qu'on a lu était tellement bien que impossible de dire non.
Le Muguet de Noël, c'est le titre de cette pièce qui démarre le 30 janvier au Théâtre Montparnasse à Paris. Frédéric Bourali est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Décidément, les grands comédiens se succèdent dans cette émission puisque lundi dernier, Frédéric, nous recevions Sandrine Bonner, une actrice incroyable capable de tout jouer, y compris, et sa personne, même Meryl Streep n'y était jamais parvenue, à rire à une vanne d'Axel de Tarlet, dit Jean-Michel Bide. C'est donc, on est à la fin de l'émission.
C'est ma fiancée,
c'est le
Sandrine
moment,
Bonner.
C'est le moment du qui tout double. Cette séquence où nos chroniqueurs ont 10 secondes pour plaider leur dossier devant l'invité et tenter de glaner ses points. Le film de Sandrine Bonner s'appelle « Cas contraire », alors au moment d'appeler à voter pour lui, Axel a osé.
Parce que dans le cas contraire, je serais très triste.
Serez-vous aussi bon public et surtout aussi bon acteur que Sandrine Bonner? Axel de Tarlet arrive avec une bonne nouvelle. Économiquement, on sera en train de damer le pion aux Allemands.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Parfois, je repense au temps pas si lointain où les journalistes d'Europe 1 s'aimaient. À midi, ils déjeunaient ensemble à la cantine. Le mercredi, ils jouaient au squash.
Viens.
C'est ça que tu appelles frapper.
Et puis un jour, j'ai créé l'équipe sauvage. Cette émission qui désigne chaque soir le meilleur chroniqueur de la station. Les journalistes ont cessé de déjeuner ensemble, ils ont arrêté le squash et ils ont commencé à ne plus pouvoir s'encadrer. L'exemple type étant le tandem Charrier de Tarlet, jadis cul et chemise, désormais chien et loup.
Là, je pars à l'Alpe d'Huez demain.
Ça va, t'as un journalisme un peu tranquille, toi. Tu vas à l'Alpe d'Huez pour enquêter.
Tu pourrais venir, Axel, finalement.
Ah non, moi je travaille, moi si tu veux.
Ah ouais. Axel de Tarlet, aujourd'hui vous avez le champ libre. Vous voyez l'ambiance un peu Frédéric Bourali.
Il y a des gilets jaunes chez vous. Hein,
c'est tendu parfois. Ouais. Hein.
Monsieur Charrier, c'est facile de le critiquer. Ouais, quand même.
Il en est
très imaginatif.
C'est dégueulasse parce qu'il n'est pas là pour se défendre.
Justement.
Axel. Vous avez justement le champ libre. Donc, vous êtes porteur d'une grande nouvelle aujourd'hui, Axel. Sur le plan économique, les Allemands se sont longtemps foutus de notre gueule. L'heure de la revanche a sonné.
Exactement. Enfin, on finit par battre les Allemands. Et c'est vrai, hein, les chiffres de la croissance 2019, on fait 1,3, c'est pas beaucoup, mais les Allemands font 0,6. Et l'année prochaine, on fera 1,1. Enfin, l'année prochaine, maintenant, je suis bête, 2020. Enfin, cette année, on fera 1,1.
C'est vous qui le dites.
Et les Allemands feront encore 0,6. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'Allemagne, l'économie allemande repose sur 3 piliers. Quels sont-ils, ces 3 piliers ?
Les bagnoles.
Les bagnoles, 1. Alors, les bagnoles,
les
c'est quoi ?
Les machines-outils.
Oui, ben, 2, et il y a le 3e.
Pardon.
Donc, les bagnoles, c'est le diesel. Donc, ça, le diesel, ça ne marche plus. Le 2e, c'est la chimie. Et la chimie, c'est quoi ? Bah c'est Bayer. Hein. Donc Bayer, ce sont tout ce qui est nicotinoïdes. Et ils ont en plus racheté Monsanto. Donc maintenant, c'est pesticides, nicotinoïdes, OGM, etc.
Le 3e, c'est le tourisme. Non, ça n'a jamais marché. Hein,
ça. Non, ça n'a jamais marché. Et le 3e, vous l'avez dit, ce sont les machines-outils. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à fabriquer en Allemagne et ensuite à exporter en Chine ou aux États-Unis. Sauf qu'aujourd'hui, vous savez, avec les bagarres commerciales, les Chinois protègent leur marché. Quant à Donald Trump, il ne veut plus. Il l'a même dit Angela Merkel. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de Mercedes dans les rues de New York.
Oui, c'est vrai, il a dit.
Alors que je ne vois pas beaucoup de Chevrolet dans les rues de Berlin.
De Chevrolet, nouvelle marque.
Chevrolet.
Si, parce que les Américains ils disent Chevrolet.
Ah, Chevrolet.
Chevrolet. Oui,
ils disent pas BMW. Non. Ils disent pas ça.
Voilà. Ah bon. Donc tout ça pour dire que le modèle allemand a du plomb dans l'aile. Alors que si vous regardez le modèle français, nous on exporte beaucoup moins. Mais on est très fort en service. Ouais. Le service, c'est quoi ? C'est Sodexo, qui par exemple qui sert dans les cantines aux États-Unis, dans les prisons, dans les hôpitaux, etc. C'est Veolia qui fait le traitement de l'eau, vous savez, qui gère les eaux en Arabie Saoudite, en Chine. C'est ce matin, il y avait le patron d'Accor sur Europe 1. Et il disait, alors que tout le monde dit, bah, la croissance ralentit.
Ouais, j'ai écouté,
disait, ouais. Lui, il disait, tout va très bien pour
très
moi.
Bon point, il écoute Europe 1.
Ouais. Et Accor sont présents dans 110 pays. Et il disait, ben bah, oui, mais moi j'emploie. En Inde, à New Delhi, si vous voulez, ils emploient de la main-d'œuvre indienne. Le patron de l'hôtel Ibis sera un Indien. Et donc, quand on veut expulser les étrangers, bah c'est très facile de coller une taxe à l'importation sur BMW ou Volkswagen. En revanche, vous n'allez pas fermer les hôtels du centre, vous n'allez pas renvoyer votre prestataire d'eau, celui qui vous assure l'eau propre dans la ville.
Donc on s'est bien débrouillé finalement.
Et bien oui, parce que nous sommes beaucoup mieux insérés de façon beaucoup plus locale dans la mondialisation.
C'était un choix ou c'est un coup de bol ça ?
C'est un coup de bol.
C'est so French.
En général, les grandes stratégies, ben c'est expliquer a posteriori pourquoi c'est pas la chance, mais c'est qu'on avait réfléchi à tout ça.
Ah ouais.
C'est ça les grands stratèges. Ouais, hein. Il faut croire que...
Voilà. Très bien, attendez, ça marche. Le domaine du luxe, non ? Où les Allemands sont peu présents.
Enfin, et alors, vous avez raison. En plus, le monde est moins en train de s'équiper et plus les classes moyennes émergent. Et les classes moyennes, elles veulent bien vivre. Elles aspirent à bien vivre. Et donc, pour eux, bien vivre, eh bien, c'est vivre à la française. Et donc, on surfe là-dessus. Mais alors, alors que ce soit les produits de luxe, que ce soit les grands vins, on exporte énormément là-dessus. Voilà. Donc, mais ça, c'est de l'exportation. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était là où les Allemands ont un modèle d'export made in Germany et ensuite on vend aux autres, ce qui énerve tout le monde, à commencer par Donald Trump. Nous, on est insérés dans le tissu local des économies à l'étranger.
Ah, c'est bien.
Ce qui fait qu'on est beaucoup moins. C'est beaucoup plus difficile de nous mettre à la porte. Et c'est ce qui fait que le modèle français devient. Enfin, on peut parler du modèle français par rapport à l'Allemagne. Alors, c'est vrai que les Allemands disent que c'est pas beau de se réjouir du malheur des autres. Il y a même une expression pour ça. C'est une chute. J'essaie de trouver une chute. Hein.
Ah,
attention.
La règle numéro 1 de la chute, et je pense que peut-être avec moi, c'est qu'il ne faut pas l'annoncer.
J'en ai une. Ça s'appelle le Schadenfreude. Le Schadenfreude, c'est cette joie maligne qui consiste à éprouver du bonheur en observant le malheur d'autrui. Je dois dire que par moments, quand j'entends les chroniques de Mathieu Charrier, j'éprouve un peu de Schadenfreude.
Bon, c'était pas mal comme chute. Il a beau l'avoir annoncé.
Ouais,
c'était pas mal. Merci beaucoup, Axel de Tarlet, pour cette chronique qui tombe à pic pour l'amitié franco-allemande. Déjà qu'Europe 1 est partenaire du film 1917. Mais la force du peuple allemand, c'est de savoir se relever, comme le dit souvent Angela Merkel.
Il faut être optimiste.
Voilà. À suivre. Top. Conçu en 1974 à l'arrière d'une baraque à soca du Vieux-Nice, je suis entré dans la vie publique et sous les feux des projecteurs en repartant en 1992 le titre de Miss T-shirt mouillé au camping des pins parasols de Juan-les-Pins, un goût de la compétition qui m'oriente ensuite logiquement vers le basketball. Je serai dans les années 90 au SLB, le Stade Laurentin Basket, ce que Michael Jordan était au même moment au Chicago Bulls. Et j'en veux toujours plus en 2003, je bâche Marie-Josée Pérec aux 2000 mètres, je suis...
On va répéter la question.
Ah oui, en revanche, elle est nulle en quiz. Eva Rock contre notre invité, c'est le quiz à suivre dans l'équipe sauvage.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Se marrer sans pour autant débrancher son cerveau, vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures à la frontière du rire et de l'info en compagnie des meilleurs journalistes d'Europe 1 dont les compétences donnent souvent le tournis à nos invités comme Thibaut de Montalembert vendredi qui en écoutant Eva a déclaré
« C'est vertigineux en tout cas, il y a un moment on ne sait plus où on est. »
Un vertige que découvre à son tour aujourd'hui Frédéric Bourali alias José dans la série Scène de ménage, alors que vous pourrez découvrir sur scène au Théâtre Montparnasse à partir du 30 janvier dans le Muguet de Noël, une pièce, on le disait, vraiment excellente. Avec Eva, on a eu la chance de la lire, j'ai envie de dire, en avant-première. Le succès aujourd'hui est là, à la télé, au théâtre. Est-ce que vous avez galéré à vos débuts, Frédéric Bourali ? Ça, c'est une question que les auditeurs adorent, parce que ça donne confiance aux jeunes comédiens qui se lancent et qui se disent
Il n'a pas encore répondu, il n'a peut-être pas galéré.
Ah non, peut-être qu'il va nous dire que tout de suite, il a eu l'Oscar, mais ça m'a échappé.
Non, bah, j'ai galéré. Mais non, en fait, galéré au niveau du blé, certainement. Mais j'étais tellement passionné par mon boulot. Je ne me posais pas ces questions de savoir si j'allais vivre. Je voulais ça. Je voulais vivre de ce métier-là. Maintenant, si je me dis maintenant, évidemment, il y a une différence, évidemment, de statut, mais je me souviens quand j'ai commencé il y a 1000 ans, hein, c'est Louis XVI qui m'a lancé. Non, je suis nul en histoire. Mais j'ai démarré en temps, mais j'étais très heureux, très heureux. J'ai commencé à Lyon, je faisais de la régie dans un petit théâtre le soir, j'allais au conservatoire toute la journée, je faisais plein de... Mais c'était ma vie, j'étais très heureux comme ça.
Vous avez joué des rôles sérieux, entre guillemets.
Beaucoup, oui.
Et aujourd'hui, c'est dans la comédie qu'on vous connaît. Vous pourriez revenir à des rôles...
Bien sûr, je l'ai fait l'été dernier. Je suis dans une série là, sur TF1 qui s'appelle Peur sur le lac.
C'est plus sérieux.
C'est même très sérieux. Ça ne veut pas dire grand-chose, sérieux. Pour faire rire, il faut être très sérieux, en fait, paradoxalement.
Les acteurs de Cadmera nous disaient notamment son César. Ouais. Ils disaient, je suis content d'avoir eu un César, mais c'est pour un rôle dramatique, alors que j'ai fait des choses beaucoup plus dures
bien
en tant
sûr.
Qu'acteur, dans des rôles de comédie.
Bien sûr.
Les comédies ne sont pas encore
C'est beaucoup plus difficile de faire rire que de... Enfin, c'est des phrases qu'on dit tous, je sais pas si les gens le savent, on s'en fout de ce que je raconte, mais. Enfin, non, on s'en fout pas, je suis à l'Europe 1 en train de parler au micro.
Tout à fait.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais qui vient de dire qu'on s'en foutait de ce que je. Mais qui... C'est quand il imite ma voix.
Il est aussi schizophrène, le cadmiral. Complètement schizophrène. Alors, Frédéric Bourali, vous la voyez qui s'impatiente, elle s'agite sur sa chaise, vous connaissez Eva Rock ?
La femme frivole qui s'intéresse à tout ce qui brille.
Oui, voilà, c'est exactement c'est elle. Eh bien, c'est l'heure où elle défie l'invité. Avec 87 défaites à son actif en seulement 95 émissions, elle a un ratio victoire-défaite proche d'un tennisman français à Roland-Garros. Et aujourd'hui, Eva, si je vous dis que le thème du quiz, un clin d'œil évidemment à la série Scène de ménage et le couple, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ont préparé ce quiz ?
Bande de gros cons !
Tout est dit, on peut commencer, une bonne réponse égale un point.
Ça donne envie de jouer, hein, tout de suite.
Ouais, tout de suite. Ouais. Eva Rock, il y a quelques jours, nous recevions Cadmerat dans l'émission, on vient d'en parler. Il est en couple avec l'animatrice Julia Vignali. Et bien, par amour, il a confié dans la presse People qu'il faisait du roller une fois par semaine avec elle. Vrai ou faux ?
Bon, c'est pas un grand geste d'amour quand même, hein. Faire du roller, c'est pas non plus. Non, ça, je pense qu'il est capable de mieux, donc je vais dire faux.
Ah, vous dites, vous raisonnez comme ça.
Oui.
Et
ouais,
pour
oui.
une fois, vous avez le bon raisonnement. C'est faux. Par contre, il a confié que par amour, il a fait plus que du roller. Il a regardé l'émission qu'elle présente.
Oh, c'est moche.
Le meilleur pâtissier. Même s'il n'était pas fan au début, il s'est forcé parce que sa femme lui demandait souvent son avis et finalement, il trouve ça pas mal, ce qui est un beau compliment.
Oh bah oui.
Frédéric Bourali, un couple de Britanniques a des jumelles de 5 ans et ils ont passé une annonce pour trouver une nounou. Elle sera payée 45 000 euros par an, mais elle devrait être également stripteaseuse dans le bar que tiennent les parents. Vrai ou faux ?
Mais non.
Vrai, alors moi je dis vrai, un truc aussi énorme, alors, c'est vrai tout de suite.
Franchement, un truc aussi énorme, j'aurais dit vrai tout de suite.
Direct.
Mais les personnes qui conçoivent ce quiz sont visiblement complètement tarées. Non, c'est faux.
Ah merde,
par contre,
quelle déception.
Devra, pour 45 000 euros, elle devra au moins une fois par mois se déguiser en princesse Disney et changer tous les mois de princesse. La location du costume est payée par les parents, mais contractuellement elle devrait être, je cite, souple sur les horaires et créer une atmosphère féerique dans la maison.
Ouais, c'est un peu
ça
pareil
peur,
que le striptease quand même.
C'est un peu, oui, parce que
être souple en général, je pense.
Atmosphère féerique, pour moi, ça veut dire striptease.
Et puis on sait pas pour qui c'est le costume de la princesse de Disney.
On sait pas
là.
Si c'est pour le papa ou les enfants. On sait pas. Eva Rock, Frédéric Bourali, vous jouez ensemble.
D'accord.
Georges Valence, journaliste, a sorti en 2011 sur Valéry Giscard d'Estaing un livre. Qu'apprend-on dans cet ouvrage sur le couple Valérie et Anémone ? 1. Qu'ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient tous les deux en couple. 2. Qu'ils ont toute leur vie fait chambre et étage à part. Ou 3. Qu'ils sont tellement pingres que quand on dîne chez eux, il vaut mieux vérifier la date de péremption des aliments.
La vache. Ah ouais. Moi, je dirais la première.
Ils se sont rencontrés, ils étaient déjà en couple.
Ouais.
Eva ?
Moi, j'aime bien le côté pingre.
Bah bien sûr.
Le côté pingre ?
Oui.
C'est-à-dire que chez Valérie Giscard d'Estaing, il faut vérifier la date de péremption des
yaourts. Oui, alors on ne peut pas le vérifier, mais j'imagine, ouais, ça doit être.
Enfin, Eva, on parle quand même d'un ancien président de la République.
Mais alors, il peut être pingre et président de la République. En plus,
et
je sens que j'ai la bonne réponse.
Vous avez la bonne réponse. Il vaut mieux vérifier les dates de péremption. Alors,
c'est
je cite
vrai.
Le livre. Lorsqu'on est invité chez les Giscard d'Estaing, il faut regarder les dates de péremption. La rigueur peut parfois tourner à la pingrerie. Les jus de fruits servis à la famille de son collaborateur et ami Claude-Pierre Brossolette sont si éventés que Madame Pierre Brossolette fait signe à ses enfants de ne pas en boire.
Oh, non, c'est génial.
Attention, attention.
C'est sexy. Voilà.
Eva Rock,
oui.
Taylor Jackson est ce qu'on appelle pudiquement une actrice de charme. Elle marquera l'histoire du porno car avec son petit ami, ils sont les premiers à avoir fait l'amour en vidéo dans une voiture autonome. Vrai ou faux ?
Oh, j'en sais rien.
C'est que la voiture avance.
Oui, oui, oui,
seule,
oui,
et
oui,
eux,
oui, tout à fait.
Je
oui, je vois très bien.
Vous voulez que je vous fasse un dessin ?
Non, mais c'est dangereux de faire l'amour dans une voiture
oui,
autonome.
Je ne demande pas votre avis de sécurité routière, vous demandez une réponse à la question.
Moi, bon, je dis oui.
Vous dites oui,
ouais.
Vous êtes béni des dieux aujourd'hui.
C'est
20
vrai
millions de
oh.
vues pour la vidéo. L'histoire
retiendra
que c'était en mai 2019 dans une Tesla Model X. Ça ne s'invente pas.
C'est génial.
Elon Musk a même tweeté, j'aurais dû le voir venir. Frédéric Bourali, c'est la dernière question qui va vous départager. Le premier rendez-vous galant entre Faustine Bollaert et Maxime Chattam, l'écrivain spécialiste du thriller, a eu lieu dans un ancien hôpital psychiatrique désaffecté. Vrai ou faux ?
Ah, ça donne envie que ce soit vrai, ça... Ouais, moi je dis oui.
Il dit oui, il a raison, je
et
cite
oui.
Faustine.
Bah ouais.
On a passé notre après-midi à regarder les vieilles radios qui traînaient, à essayer de se faufiler dans des petits passages secrets de cet hôpital désaffecté qui faisait très très peur. Et du coup, j'ai dû me blottir dans ses bras. Moi je dis, il est fort,
ah,
Maxime.
Il est très très fort.
Et qui est le plus fort aujourd'hui ? C'est Eva Roth qui alors remporte son premier quiz depuis au moins 10 ans, même si l'émission n'a commencé qu'en septembre.
Vous imaginez le paradoxe de cette émission.
Mais je vais vous dire, Eva, c'est un signe du destin.
Vous croyez ?
Certainement, 2020 sera pour vous l'année du couple.
Je peux préciser que je vous remercie beaucoup de m'avoir inscrit sur un site de rencontre où on mêle site de rencontre et bouffe. Hein, vous savez ?
Mais c'est ce qu'il vous fallait, non ?
Non, non, mais j'ai refusé l'invitation, vous imaginez bien.
Non.
Bah si.
Il faut aller sur les sites de rencontre, Eva. Je vais vous réinscrire. Vous l'aimez ?
Rencontre et bouffe, là.
Rencontre et bouffe, oui, c'est le nouveau site.
C'est du rembouffle.
Oui. Elle pourrait comme ça. Ils n'ont pas eu cette idée marketing. Ouais. Vous l'aimez dans Scène de ménage, vous pourrez le découvrir en vrai au Théâtre Montparnasse à la fin du mois. Frédéric Bourali, vous êtes content de passer l'après-midi sur Europe 1 ?
Les gens sont venus de très loin pour me voir. Je n'ai pas le droit de les décevoir maintenant.
Oui, enfin, non, parce que là, on n'est pas en public le lundi, donc ils ne sont pas venus loin, ils ne sont pas venus du tout. Mais c'est pas grave, on est content de vous avoir.
Europe 1.
À suivre, près de 60 ans après sa disparition, nos cœurs se serrent encore lorsqu'on entend sa voix.
Je préfère Patrick Fiori, je crois.
C'est votre droit. Mes deux admirateurs d'Edith Piaf, vous salissez tout. Eva. Mes deux admirateurs d'Edith Piaf en possession de véritables trésors la concernant ont un rêve, créer un musée Piaf à Marseille. Notre correspondante a pu voir leur collection. Elle nous raconte juste après Clara Luciani, La Grenade sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1 plus qu'une radio, une famille. Ici, pas de distinction entre les stars de l'antenne à Paris et nos correspondants en région. La preuve avec Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille depuis plus de 10 ans. Forcément à Paris, tout le monde la connaît. Et surtout ceux qui sont là depuis longtemps, comme Laurent Cabrol, qui l'adore. Il a toujours adoré Nathalie. Émilie attends, comment elle s'appelle déjà ?
Le reportage de notre correspondante à Marseille était vraiment superbe.
Nathalie Chevance.
Nathalie, pardon, j'avais oublié ton prénom.
Oui, bah ça fait juste 10 ans. Bonjour Nathalie Chevance.
Bonjour à tous.
Nathalie, vous êtes donc notre correspondante à Marseille, comme chacun sait. Et vous avez rencontré deux collectionneurs qui se battent depuis des années pour qu'on puisse enfin rendre hommage à la môme Piaf.
Oui, car c'est complètement fou. Figurez-vous qu'il n'existe aucun musée consacré à Edith Piaf, artiste exceptionnelle connue dans le monde entier, photographiée à son époque autant que Marilyn Monroe.
Ah,
et
oui.
Pourtant, eh ouais, à Marseille, deux hommes ont en leur possession un véritable trésor qu'ils conservent depuis des années. Une collection qui leur a été léguée par la secrétaire particulière et par l'accordéoniste d'Edith Piaf, qui, on le sait, n'a pas eu d'enfant, pas d'héritier donc. Il y a des centaines d'objets, des robes, des chaussures, du maquillage, des jouets offerts par son père quand elle était enfant, des pièces sorties de l'histoire et conservées par Jean-Paul Mazillet et Anthony Béraud dans l'appartement de ce dernier, qui au fil du temps a aussi retrouvé d'autres pièces, 10 000 photos originales, des affiches, l'intégralité des 78 tours, des films, des enregistrements personnels comme celui-ci. Écoutez.
J'étais sûre que je réussirais. Je chantais, j'avais 7 ans et je faisais une prière. Et dans ma prière, je disais, mon Dieu, faites qu'un jour je sois vedette.
Voilà, wow. Piaf qui rêvait d'être vedette. Et tout cela constitue la plus grande collection sur Piaf, avec comme pièce maîtresse la fameuse robe de scène de 1958 portée à l'Olympia.
Edith Piaf gardait tout aussi. Elle était très collectionneuse sur sa vie personnelle. Et là, quand je pense que je peux toucher la robe de Piaf, ou son foulard de l'Olympia, ou ses chaussures, ou même sa croix, voilà, je suis assez fier. Alors ça, c'est les petits chaussons d'Edith Piaf qu'elle portait très souvent, on la voit très souvent en photo avec. Et puis son sac à main. Dans le sac, il y a toujours sa paire de gants, son stylo avec lequel elle dédicaçait. Et là, dans le sac à main, les cheveux. Ça, c'est son petit flacon de Chanel, parce que tous les jours, il fallait un petit flacon de Chanel qu'elle mettait dans son bain. Elle avait rencontré Marilyn Monroe aux États-Unis. Ils avaient parlé parfum, plutôt que ce soit dans des malles, que les affiches soient roulées, que les photos soient toujours rangées. Voilà, je me suis dit, pourquoi pas un musée ? C'est notre passion et qu'on aimerait bien la partager.
Alors, c'est une très belle idée, Nathalie Chevance. Mais quand on parle d'Edith Piaf, on pense immédiatement Paris. Quelle légitimité de concevoir un musée à Marseille ?
Eh bien déjà parce que la collection est ici, pas très loin du boulevard Chave, où elle a d'ailleurs vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Marseille est une ville qu'elle aimait beaucoup. Elle se rendait régulièrement à Notre-Dame-de-la-Garde pour prier. Elle s'y est produite, bien sûr, à Marseille. Son portraitiste officiel vivait ici. Reste à trouver un mécène, un local, une cagnotte a été lancée en ligne pour récolter des fonds.
Eva, vous, quand vous étiez enfant, comme Edith Piaf, vous priez pour que le Seigneur, le petit Jésus, faites que je sois un jour une vedette.
Mais
ça n'a pas marché pareil. Ouais. Quoi.
D'ailleurs, on a des enregistrements originaux.
Ça n'intéresse personne, mais on peut faire un musée aussi avec tous les souvenirs des Varocs. Merci Nathalie Chevance, notre correspondante à Marseille.
Europe 1.
Une couronne en plastique, 4 journalistes en carton. L'équipe sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1, va entrer dans sa phase décisive. 2 nouveaux concurrents vont nous rejoindre. Ils tenteront de vous séduire par la qualité de leur chronique. Et certains tenteront peut-être, comme vendredi, de taper dans l'œil de l'invité en misant sur l'humour. Attention, c'est autorisé, mais c'est qui tout double. Comme l'a constaté assez d'emport notre expert scientifique Alain Sirou vendredi face à Thibaut de Montalembert. À la clé, ce qu'on peut qualifier, surtout pour un spécialiste de l'espace, de bide intersidéral.
Dis donc, ils ont perdu les étoiles, Bocuse, c'est ça ?
Ils ont perdu leurs 3 étoiles, la 3e étoile.
Faut remplacer les étoiles par des galaxies, c'est plus simple.
Par des ?
Par des galaxies.
Ah oui.
Ah, que c'est bon de rire ! A tout de suite !
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Et si, au lieu de regarder un doc sur Arte, puis les ch'tis à Mykonos, une même mission pouvait vous procurer détente zygomatique et plaisir d'apprendre simultanément ? Ne cherchez plus, vous êtes au cœur de l'équipe sauvage. Premier tournoi journalistique de France, opposant chaque après-midi au service de votre culture G les meilleurs chroniqueurs d'Europe 1. Vous votez pour votre sujet préféré, sachant que la voix de notre invité d'honneur comptera triple. Aujourd'hui, c'est Frédéric Bourali, José de la série Scène de ménage qui nous accompagne. Et durant le journal qui arrive, je peux vous dire que je vais encore relire sa bio pour éviter ce qu'on appelle désormais dans le milieu journalistique une Noël, à savoir une bourde de niveau 12 sur l'échelle de Richter de la connerie. Bourde monumentale.
J'attends avec impatience.
Désormais étudiée dans les écoles de journalisme, Frédéric Bourali. Je ne sais pas combien vous avez de frères et sœurs, ni même si vous en avez. Et je vais vous dire, après le moment de solitude que j'ai vécu vendredi avec Thibaut de Montalembert, je ne veux pas savoir.
Est-ce qu'on accorde la même attention, le même temps à ses frères et sœurs ? Il y en a que vous ne voyez plus du tout ?
Il y en a une que je ne vois plus du tout parce qu'elle est passée de vie à trépas.
À la boulette.
Ah, la petite boulette, la petite boulette. Bon, allez, des questions sur la famille, c'est fini.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage continue. 2 heures pour noter les journalistes de la rédaction et aussi, c'est nouveau, les invités. Qui, à la fin du mois, décrochera le faillot d'or de l'invité le plus sympa ? Frédéric Bourali, alias José dans Scène de ménage, fera-t-il mieux que Thibaut de Montalembert, célèbre agent dans la série 10% vendredi ? Il va devoir se surpasser car Thibaut ne s'était pas économisé.
Ah mais j'adore cette émission !
Alors, Frédéric Bourali, de vous à moi, en toute objectivité, comment vous trouvez l'émission jusqu'à présent ?
Mais c'est une merveille ! Mais vous êtes tous beaux en plus !
C'est vrai, mais
toute la déco, tout est bien, même l'eau. L'eau, elle a un goût, mais tout est formidable. Vraiment.
Ça, c'est du GHB, c'est autre chose. Ouais. Alors, je crois que de mon côté, je peux dire que la pièce que vous interprétez dans quelques jours au Théâtre Montparnasse est exceptionnelle. Alors, évidemment, vous allez me dire, chers auditeurs, mais vous ne l'avez pas vue forcément, puisqu'elle commence le 30 janvier. Oui, mais on l'a lue. Ouais. Et elle est vraiment exceptionnelle. Il y a Lionel Astier qui joue votre meilleur ami dans cette pièce. Lionel Astier qui est très intrusif dans la vie sentimentale de sa fille. C'est un grand rôle dans la pièce. Quel genre de père êtes-vous avec vos enfants?
Vous êtes intrusif. Tous mes copains se foutent de ma gueule. Ils m'ont tous nommé mère juive.
Ah oui, ça répond à la question.
Donc, voilà, ça répond à la question, mais c'est assez radical comme réponse.
Mais
donc,
c'est intrusif.
Intrusif. J'essaye de ne pas l'être. Je me bats contre ça, mais je les aime
tellement.
C'est
plus fort que vous.
Je suis fou de mes enfants.
Alors, continue de parler de vos enfants et aussi de cette pièce, le Muguet de Noël, bientôt au Théâtre Montparnasse. Le temps de vous présenter nos 2 ultimes concurrents du jour. À ma gauche, depuis que pour sa chronique matinale, il rencontre des stars, on peut le dire, il a changé. Jadis humble et réservé, Jean-Philippe Ballas vit désormais la nuit, fréquente les établissements les plus hype. Il a également changé d'amis. Maintenant, ses amis, c'est...
Mon polo, Paul McCartney.
Et comme en plus, il est très parisien, il réussit encore à se plaindre, comme par exemple de cette soirée à laquelle il assistait samedi soir, où il n'y avait visiblement pas que Paul McCartney.
Il y avait aussi Madonna. Moi, je trouve ça un peu bof.
Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Entre deux coupes de champ, vous avez quand même daigné préparer une chronique aujourd'hui.
On va faire des selfies, les amis, mais alors pas des selfies bêtes et méchants, non. On va faire une œuvre d'art, l'œuvre d'un photographe new-yorkais qui immortalise sa trombine tous les jours depuis 20 ans. Il met les photos bout à bout et je vous raconterai ça, c'est absolument fascinant.
Ah, ça doit être fascinant, ça doit être un peu flippant aussi de se voir, enfin de voir l'évolution, non ?
Hypnotique.
À ses côtés, génie de l'informatique, il a réussi à effacer des serveurs ces photos compromettantes qui circulaient où on le voyait en fâcheuse posture avec Sandrine Bonner. Mais la rumeur, elle, continue de bruisser dans tout Paris, à tel point que même nos invités, comme David Fuenquinos mardi dernier, le vannent là-dessus.
Plutôt que d'avoir un écran plat qu'on accroche au mur, mais là, on va le mettre sur sa table basse, dans son salon, puisqu'on pourra tourner tout autour de sa table et voir les acteurs
sous...
Vous allez pouvoir avoir Sandrine Bonner chez vous.
Non ! Et oui, tout le monde sait qu'avec Sandrine Bonner, il y a Anguille Souroche. Ça s'était très très bien passé entre lundi dernier. Bonjour Anicem Bida.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bonjour.
C'est de cookies fort peu appétissants que vous nous parlez aujourd'hui.
Oui, vous connaissez le petit message. Hein, si tu utilises des cookies, votre vie privée est très importante. Maîtrisez la façon dont on utilise vos informations sur Internet. Tout ça, c'est du baratin.
Ah bon,
90% des sites sont malhonnêtes. Et je vais vous donner quelques petites astuces pour reprendre votre liberté.
Ah, je vais écouter ça avec impatience.
Plus d'impatience que la chronique de Philippe. Nous le verrons. Quel sujet l'emportera, la réponse vers 18h. Vous votez via Twitter. En attendant, je me tourne vers notre invité. Connaissez-vous Frédéric Borali? On est allé vous poser la question. Voici, non pas notre micro-trottoir, toujours trop flatteur pour l'invité. Voici notre micro-trop-trash. C'est pareil, sauf qu'on n'a pas fait de montage pour couper les vacheries.
Ah, bien sûr.
Son nom, je ne me rappelle pas, mais je crois qu'il joue dans Caméra Café, non?
Oui, c'est un acteur dans Scène de ménage. Yeah. Non, ah, c'est ça scène de, non, scène de ménage. Oui, Scène de ménage. Non, pas Scène de ménage, Les voisins.
José, votez José.
Frédéric Borali.
C'est lui que je préfère dans Scène de ménage. Raymond et Huguette, et puis José et Liliane.
Il est en train de jouer sur la série sur TF1 avec Sylvie Testude. Ouais, c'est un rôle sérieux. Ouais, ouais, il a des lunettes et tout.
Ah, on le voit tous les soirs, là, Scène de ménage.
Peur sur le lac, ça s'appelle.
Tu aimes bien, toi, Scène de ménage?
Parce que c'est les deux couples là que je préfère, et puis ça en balance des bonnes. J'aime bien, de bonnes vannes.
Après le nom, est-ce que c'est important? Bah, si je le croise, je le reconnaîtrai.
Mais bien sûr que je connais Frédéric Borali.
Depuis,
oh, c'est mignon.
2009, hein, chaque c'est soir génial. Sur M6, 20h25, ils sont près de 3,7 millions de téléspectateurs. Vous vous en souvenez peut-être pas, mais en 2011, vous disiez « Il y a une concurrence en face très forte, je pense que la série s'essoufflera plus vite. De toute façon, Valérie et moi ne souhaitons pas être enfermés trop longtemps dans nos personnages sous peine de ne plus trouver de rôle. »
Tout ça, c'est très très loin. J'ai dit « C'est connerie, moi. »
Oui, mais à un moment, peut-être que vous aviez peur d'être enfermé dans le rôle. On peut imaginer
ouais,
aussi. Mais
non,
finalement,
mais
ça ne vous empêche pas de faire des choses formidables.
En fait, c'est jamais arrivé, en fait. C'est, c'est tout le contraire. Non, tout est dans le vert.
La pièce que vous interprété bientôt le 30 janvier au théâtre Montparnasse, le Muguet de Noël, qui est drôlissime, on l'a lu avec Eva, traite de l'amitié. Ouais. Qu'est-ce que vous feriez si un jour Valérie Carcenti vous disait qu'elle arrêtait la série?
Ah bah je serais triste d'abord, parce que en même temps, chacun, on est en couple, donc s'il y en a un des deux qui part, voilà, ça s'arrête pour l'autre. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui est en jeu du tout. Pour l'instant, on est très heureux et voilà. Mais ça pourrait arriver, ça pourrait être moi aussi qui. Mais pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité pour l'instant.
Mathieu le disait effectivement, la pièce, elle est vraiment centrée autour de ces deux personnages, ces deux copains. Vous savez, une question rituelle. Qu'est-ce que vous feriez par amitié? Est-ce que par exemple, si votre pote vient à tuer quelqu'un, est-ce que vous serez prêt à cacher le cadavre pour
moi,
le sauver?
Moi, je l'ai fait pour Anissé, je peux dire. Ça m'a coûté quand même.
Ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est la question qu'on se pose tous. Moi, je pense que oui, je le ferai. Je passe mon temps à le faire d'ailleurs. Hein.
De cacher les cadavres.
J'en veux plus. Je me suis acheté des pelles, des machins. J'en veux plus.
Pour être plus efficace.
J'en veux plus. J'habite à côté d'un bois exprès, comme ça. Je m'emmerde plus. Alors, mes copains, quand ils viennent chez moi, ils me disent même pas bonjour. Je sors la pelle. On va enterrer le mec et après, on boit l'apéro. Ouais.
Il vous régale chaque soir dans Scène de ménage sur M6 et bientôt au théâtre Montparnasse. Frédéric Borali passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, on l'a tous vécu, ce moment où on est hyper stressé, qu'on doit à tout prix ouvrir une page web rapidement et qu'elle ne s'ouvre pas. À la place, c'est une pub qui envahit l'écran et on ne sait pas comment l'arrêter, on devient fou. Certains vont même jusqu'à violenter leur ordi en s'exclamant
« Bande de gros cons !»
Face aux cookies, essayez d'être plus constructif qu'Eva. Écoutez les conseils d'Anicem Bida qui vous explique aujourd'hui comment vous en débarrasser et fluidifier ainsi votre navigation web. A tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1 continue avec celui qui fut longtemps leader de ce prestigieux championnat. C'était bien sûr avant qu'il ne cède aux sirènes pernicieuses des sens. En effet, inutile de revenir sur l'incident, toute la France le connaît, ce rapprochement aussi brûlant qu'inattendu lundi dernier entre Anicem Bida, toujours excitée à l'idée de tester les nouvelles technologies, et Sandrine Bonner, qui était elle très excitée à l'idée de tester Anicem Bida. La seule qui n'était pas excitée dans l'histoire, et on peut le comprendre, c'était évidemment l'épouse d'Anicé. Car oui, durant cette émission, sa situation maritale lui était totalement sortie de la tête. Pas de bol, visiblement, sa femme écoutait, comme Eva a eu la confirmation le lendemain.
Mais ta femme a vraiment dormi sur le canapé ?
Ouais.
Eh ouais, le week-end a dû être sympa. Bonjour Anicem Bida.
Bonjour Mathieu.
Oh, il fait le timide. Vous êtes notre expert nouvelle technologie et ce soir, vous allez nous expliquer, je dirais enfin, comment déjouer les cookies.
Alors d'abord, on va rappeler ce que c'est que les cookies. Hein. Oui. Tout part d'une très très bonne idée. Les sites s'amusent à récupérer plein d'informations personnelles nous concernant. Et ensuite, vous avez cette fameuse publicité qui vous suit de site en site. Hein. Vous n'avez pas acheté tel produit. Et donc l'idée, c'est que la Commission européenne a fait une loi pour obliger les sites, quand ils utilisent ces petites informations, quand ils essayent de récupérer ces informations, de vous prévenir, de vous demander l'autorisation avant. Sauf que ça a complètement dégénéré. C'est devenu n'importe quoi aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des messages qui prennent la moitié de l'écran. On comprend rien aux messages.
On ne peut plus revenir sur surtout sur l'article qu'on voulait voir.
Alors, on voit l'article, il est complètement bloqué par ce petit message. Et surtout, il y a une étude qui a testé comme ça 10 000 sites web sur Internet et qui s'est rendu compte que la plupart étaient complètement malhonnêtes et qu'en fait, ils faisaient tout pour qu'on appuie sur accepter tous les cookies. Ce que vous avez remarqué, le bouton accepter, il est en gros, il est en vert. Il faut cliquer sur trois pages et sous-menu pour trouver le truc désactivé. Il y a plein de cases qui sont déjà pré-cochées et il faut les décocher une par une, etc. Ça prend des plombes. Et puis le pire, c'est parfois on dit non. Et on revient sur le site et le message réapparaît.
Alors, est-ce qu'il y a un moyen de se débarrasser des messages?
Il y en a même plusieurs, mon cher Mathieu.
Alors dites-nous.
Le premier moyen, je note, c'est une extension pour son navigateur. Vous savez que tous les navigateurs aujourd'hui, on peut rajouter des extensions.
Ah bah non, déjà,
une qui s'appelle « I don't care about cookies
». Ah bah au moins, facile à retenir.
Qui s'appelle « Consent-O-Matic ». Ou uBlock. Et ce que font ces extensions, c'est qu'une fois que vous les avez activées, vous arrivez sur n'importe quel site web, au lieu d'avoir cette fameuse page qui s'affiche le cookie, veuillez paramétrer, etc., pouf, ils vont accepter certains et vont en refuser d'autres automatiquement. Parce que ça peut quand même être utile, les cookies. Vous savez, quand vous arrivez sur un site, la raison pour laquelle le message revient, c'est que vous dites je ne veux pas de cookie. Et la seule façon qu'il a de savoir qu'il avait déjà affiché ce message, c'est avec un cookie. Donc quand vous avez dit je ne veux pas de cookies, bah, il revient la prochaine fois qu'on revient, il va vous reposer encore la question. L'autre option qui est un peu plus simple, c'est de changer de navigateur. Aujourd'hui, 90% des gens utilisent Chrome de Google. Et bien, si vous passez sur Safari, par exemple, Safari depuis 2 ans supprime automatiquement les cookies au bout de 30 jours. Il bloque aussi les cookies tiers. Les cookies tiers, c'est ceux des publicitaires. Parce qu'on a besoin des cookies du site qui permettent de personnaliser le site. Mais tous les cookies tiers, c'est ceux qui vous pistent. Eh bien, Safari d'Apple, lui, bloque automatiquement ses cookies et les supprime au bout de 24 heures. Donc, on peut utiliser Safari, c'est pas trop mal. Qui marche aussi...
Ouais, ça marche pas sur PC.
Si, il marche aussi sur Windows. Il est un peu caché. Mais
question de Jean-Philippe Ballas.
J'ai un message de Google qui demande combien Safari vous a payé.
Oui, parce que c'est vrai que là, c'est quand même une belle pub.
Mais non, mais vous savez, Google n'a pas besoin de ça. Hein. Je pense que ça...
c'est vrai.
Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'il y a Firefox qui est très connu. Firefox a aussi des fonctions qui bloquent automatiquement non seulement les cookies, mais qui bloquent aussi ces petits messages d'alerte. Vous savez, vous arrivez sur un site, ce site veut vous envoyer des notifications. Est-ce que vous acceptez ou pas? Eh bien, Firefox les bloque automatiquement. Donc, j'ai parlé de Safari, mais Firefox fonctionne de la même façon. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que Google lui-même a annoncé que Chrome, d'ici 2 ans, donc ils prennent leur temps, va supprimer, enfin réfléchit à supprimer ces fameux cookies tiers qui sont en train de nous pister. Bon, sachant que Google n'a pas besoin de ça, hein. Il nous suit déjà par ailleurs avec YouTube, tous ces trucs.
Oui, Anis, et il y a des circonstances où les cookies ont du bon, puisque moi, par exemple, je suis allé chercher des informations sur la pièce de notre invité, le Muguet de Noël, et depuis, je reçois des petites invitations à acheter des places via le site de théâtre pour acheter des places. Or, j'en ai pas besoin, puisque vous allez me les offrir.
Et acheter du Muguet aussi. Hein.
Votre chronique mérite-t-elle les 3 points, Anis? Notre invité tranchera juste avant 18h.
Europe 1.
Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir, chérie? C'est la question qui peut faire basculer votre soirée vers le chaos si jamais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord ou que vous choisissez mal. La fausse bonne idée étant de se forcer à regarder un truc, par exemple un match de foot, uniquement pour faire plaisir à l'autre, car votre conjoint le sentira.
C'est quoi, hors-jeu?
Oh, écoute, j'ai pas envie de passer la soirée, t'expliquer les règles. De toute façon, t'y connais rien. Puis ça t'intéresse pas.
Bah évidemment que ça m'intéresse pas. Mais si je veux qu'on partage des moments ensemble, je suis bien obligée de m'intéresser à ce qui t'intéresse, toi.
Eh oui, bref, sauvez votre couple. Écoutez les conseils télé des Varoc. Ils mettent tout le monde d'accord. 17 minutes de gagné arrive juste après Billie Eilish. Everything I Wanted sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage 2 heures sur cet étroit filin qui sépare l'info et le rire pour rentrer chez vous plus joyeux mais aussi plus savant grâce aux lumières de nos journalistes et aux interventions toujours bien senties d'un animateur absolument désopilant.
Un homme promène son chien dans une forêt. Donc là on se dit, il y a un loup.
Dans la forêt ? Quand j'entends ça, je me dis, mais que reste-t-il à Laurent Baffie? Alors aujourd'hui... c'est un sens de l'impro,
passé, hein,
toujours la bonne phrase au bon moment. Aujourd'hui, nous recevons l'incontournable José de Scène de Ménage, Frédéric Bourali, bientôt à l'affiche du Muguet de Noël au Théâtre Montparnasse à Paris. Alors, votre palette d'acteurs, on le disait, est immense, puisque vous avez aussi joué les classiques du théâtre, comme le bourgeois gentilhomme, José dans la série Scène de Ménage, mais aussi, et ça c'est très important pour mon petit cœur, vous êtes la voix de plusieurs personnages dans la série manga Dragon Ball Z. Et c'est loin d'être anecdotique parce que cette série que je regardais quand j'avais 10 ans, Eh ben, elle est toujours diffusée aujourd'hui. Il y a toujours des nouveaux épisodes. Comment vous êtes retrouvé dans cette aventure-là?
C'est pareil, c'était un peu le hasard.
Petit casting.
Mais je pense qu'il y a peut-être 30 ans, je crois.
Oui.
Ouais, un truc comme ça. Et moi, tous les ans, je me dis, ça va s'arrêter, quoi. Et puis non, ça continue, ça ne s'arrête jamais. C'est une espèce de truc incroyable. Alors, en plus, j'avoue que j'y comprends rien. Je comprends. En plus, j'ai beaucoup de chance que c'est le personnage le plus crétin de série.
Oui, c'est Monsieur Mister
voilà,
Satan.
Comme moi, idiot, c'est un bonheur à faire.
Ouais, ça doit être agréable de jouer.
C'est parfait. Ouais, c'est plus agréable que de faire les héros.
Oui, que faire Son Goku.
Ouais, bien sûr. Enfin, non, mais en plus, toute l'équipe, c'est des gens formidables avec moi.
Ah, vous prenez toujours du plaisir à les enregistrer.
Vraiment, c'est des gens chouettes. Vraiment.
Alors, le saviez-vous, Frédéric Borali, on passe désormais, selon une étude de la très sérieuse Université d'Oxford, 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix et consorts, ou sur la télé en général, tellement il y a de choix. Heureusement, il y a désormais 17 minutes de gagner grâce à vous, Eva Rock. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir?
Eh bien, écoutez, depuis vendredi, Netflix propose la saison 2 d'une série pour laquelle j'ai une affection particulière.
Ah bah, oui, je comprends pourquoi.
Mais oui, qui s'appelle Sex Education.
Ça s'appelle Vivre par procuration.
Ouais, c'est ça, peut-être. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu la première saison, et je vous recommande vraiment la deuxième saison. Je fais très simple. Otis est un étudiant dans un collège britannique. Sa mère est sexologue. Et le sexe, évidemment, rythme leur vie. Alors, elle, parce que c'est son boulot, évidemment. Lui, parce qu'il découvre un peu les vicissitudes de la vie amoureuse et surtout de nouvelles sensations physiques quand on a 16 ou 17 ans. Alors à l'université, tout le monde
ne pense qu'à ça.
Et plus tard aussi, on est d'accord. Et d'ailleurs, on le voit dans la série. À l'université, tout le monde ne pense qu'à ça. Le faire, eh ben, c'est une autre histoire. Il y a deux acteurs français, figurez-vous, qui tiennent les premiers rôles dans cette série. Emma McKay, qui est alias Maeve, qui est la jeune femme rebelle qui a bien du mal à avouer ses sentiments à Otis. Et puis, le petit nouveau, Sami Outabali, qui joue la peau de Rahim, donc qui est le nouveau personnage de cette saison 2. Alors pourquoi faut-il regarder Sex Education? Eh bien, réponse des deux acteurs.
Vous avez 20 secondes pour nous convaincre de regarder Sex Education, c'est à vous. Série très chaleureuse, très humaine, éducative, hyper intelligente, enrichissante.
Éducative.
Je viens de le dire.
Ok.
C'était dans la boîte à questions sur Canal+ la semaine dernière, mais ils ont raison parce que rarement une série en fait n'a parlé de sexe de cette façon, avec humour. Je vous recommande notamment les deux premiers épisodes qui ressemblent un peu à une comédie de Ben Stiller façon Marie à tout prix.
Le début, c'est American Pie. Hein,
American Pie. Exactement. Mais surtout, ils parlent de sexe avec intelligence, de façon décomplexée et surtout sans jamais être vulgaire et en abordant aussi des thèmes sociétaux, notamment dans cette deuxième saison, les violences sexuelles, le consentement, le handicap. Moi, je trouve que les personnages sont extrêmement attachants et puis leur évolution sur les deux saisons est vraiment très réussie. Mention particulière à Gillian Anderson, ce que dit dans X-Files hein, pour ceux qui connaissent la série, qui est absolument parfaite
bien décoincée, hein,
dans le rôle de la sexologue. Oui, elle est vraiment...
En plus, ça donne pas de leçon de morale. En plus, c'est vachement bien. C'est super.
Et vraiment, exactement ça. C'est une série pour les ados, c'est une série pour les parents des ados. Et franchement, si ça suscite de la discussion entre eux, tant mieux. Si vous n'avez pas Netflix, vous pouvez aussi regarder une pièce de théâtre sur France 4, L'Heureux Élu d'Éric Assou avec Bruno Solo, notamment. Une comédie qui est très réussie. C'est tellement rare le théâtre à la télé. Alors autant en profiter. Profitez aussi de France 4 parce que le 9 août, la chaîne, comme France O d'ailleurs, n'existera plus. Raison budgétaire.
Dommage
parce que c'est toujours triste. Une chaîne
qui se
meurt.
J'avais un gros projet avec eux.
Mais voilà. Je suis désolée, Frédéric Borali. Non, voilà. Un petit coup
avec Sex Education. Ouais. C'est ce que j'ai retenu de cette chronique.
Un petit coup de gueule pour France 4.
Voilà. Un petit coup de gueule. Voilà. Merci à vous, Eva Rock. C'était 17 minutes de gagner.
Europe 1.
À suivre, 20 ans de selfie. Un homme s'est pris en photo chaque jour pendant 20 ans. Le résultat est émouvant et surprenant. Ça, c'est dur à dire aussi. Notre quatrième chronique du jour, celle de Jean-Philippe Ballas, sera-t-elle la chronique gagnante? En tout cas, Jean-Philippe.
Ah, j'aimerais tellement.
Ouais, ben ça ne tient qu'à vous, mon grand.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Quand le journalisme étreint sauvagement le divertissement et se roule avec lui dans les blés, vous écoutez l'équipe est sauvage. Deux heures d'infotainment au service de votre bonne humeur et de votre culture, avec un invité d'honneur aujourd'hui, l'impayable José de Scène de Ménage, Frédéric Borali, bientôt au théâtre Montparnasse. Dans la pièce Le Muguet de Noël avec Lionel Astier, Jean-Luc Porraz, Alexis Rib, une pièce de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret, mise en scène Jean-Luc Moreau. Mais j'aimerais qu'on parle des costumes. Qui réalise les costumes de cette pièce?
Oh, moi, vous savez, la costumière, je lui ai fait deux enfants. C'est comme ça que je travaille. Hein.
Non, c'est uniquement.
Non, mais sauf que c'est ma femme. On vit ensemble depuis 30 ans. Voilà, on s'est mariés il y a 5 ans. Voilà.
Et donc, voilà, elle est
séquence intimité.
Elle est costumière.
Et se trouve que c'est comme ça que je l'ai rencontrée. J'étais en slip. Hein, donc voilà.
Elle a pris vos mesures.
Des costumières. Non, c'est pas pour ça qu'on est tombé amoureux. Non, mais et en fait, c'est depuis 30 ans, c'est assez rare qu'on bosse ensemble. On évite un peu parce que c'est toujours délicat. On a beaucoup évité. Puis là, bon, ça s'est passé comme ça. Je crois qu'on a bossé ensemble que 2-3 fois. Elle travaille beaucoup, moi aussi, mais on travaille assez peu ensemble.
Mais ça vous permet de partir en tournée ensemble ou pas?
Ah bah non, la costumière vient pas au théâtre.
Non. Bah non, quelle belle connaissance du théâtre. Bah une fois qu'elle a fait les costumes, elle vient vérifier chaque soir que les costumes sont bien ajustés.
Mais pardon, il y a des gens qui grossissent et qui m'insistent.
Il y a des habilleuses qui viennent. Non, mais il y a des habilleuses qui me suivent parfois.
Non,
je lui sauve le coup.
Oui.
Non, tout ce que je dis est faux.
Non, c'est pas vrai. Et votre femme, elle s'entend bien avec Valérie Carcenti? Votre femme à l'écran?
Bah ouais, elles sont même parties en vacances.
C'est vrai,
j'étais en tournée avec Lionel Assier, elles sont parties ensemble.
Toutes les deux?
Ouais, c'est vraiment, c'est dégueulasse.
Ça, c'est ça.
Elles sont parties ensemble en vacances cet hiver. L'hiver dernier.
Juste une question, je pense que beaucoup d'auditeurs ont cette question sur Scène de ménage. Est-ce qu'il y a une part d'impro dans les textes qu'on voit à l'écran?
Pas tant que ça,
au millimètre.
Que c'est beaucoup. D'ailleurs, c'est une chance extraordinaire. Bon, j'étais sérieux. C'est chiant d'être sérieux pour parler des choses où on se marre, mais c'est vrai. Ça bosse beaucoup derrière. C'est une machinerie derrière. Il y a 20 auteurs. Nous, on choisit les textes. C'est assez rare. On fait des séances de lecture, tout ça. C'est impressionnant. Hein.
C'est une très machine.
Ouais, c'est une machine extraordinaire. Alors, ils nous laissent pour la fin du sketch. Souvent, ils nous laissent. Ils coupent pas. Parce que on s'entend tellement bien.
Il peut y avoir une autre chute.
On s'entend tellement bien, Valérie. On est tellement en osmose complète qu'il nous laisse parfois. Mais pas si souvent que ça, en fait.
On continue de papoter, mais vous le savez, Frédéric, l'équipée sauvage est aussi une compétition cruelle de laquelle un seul journaliste ressortira vainqueur.
Évidemment.
Peut-être notre dernier concurrent du jour, Jean-Philippe Ballas, collègue de toujours, qui m'a connu stagiaire. Forcément, en 10 ans, on a développé une certaine complicité. Hors antenne, il nous arrivait même de faire des petits jeux de rôle. Lui, il fait Anne Sinclair et moi, je fais quelqu'un de connu.
Mon invité aujourd'hui, c'est Mathieu Noël, un homme qui compte. Bonjour Mathieu.
Bonjour Jean-Philippe Ballas. Mais oui, parfois on s'amuse à ça, Jean-Philippe. C'est parfois hors antenne, c'est des conneries. Jean-Philippe, ce soir, vous nous racontez, comme à votre habitude, une belle histoire.
On est foufou. Et je vais vous parler d'un jeune photographe new-yorkais. Il s'appelle Noah Kalina. Je vous donne l'orthographe exacte. Si vous êtes chez vous, vous pouvez aller sur YouTube. K-A-L-I-N-A. Et il y a 20 ans, le 11 janvier 2000, pour être précis, Noah a décidé de se prendre en photo tous les jours. À l'époque, il a 20 ans lui-même. Alors, il n'a pas de téléphone portable. Tenez, tiens, je vous allume mon téléphone à moi. Comme ça, vous allez pouvoir regarder la vidéo en même temps. Alors, il a 20 ans. Il n'y a pas de téléphone portable à l'époque. C'est pas la mode ni la technologie.
Le selfie n'existe pas.
Non. Alors, il a du pif quand même, ce garçon. Ouais. Parce qu'à l'époque, il a quand même l'idée de se prendre en photo lui-même avec un appareil photo digital. Alors, concrètement, il fait quoi, Noah? Il fixe l'objectif. Il sourit pas, non, je dirais presque qu'il a l'air de faire un peu la tête, mais il immortalise comme ça sa trombine. Everyday, c'est le titre de son projet, et il met les clichés bout à bout, patiemment, jour après jour, et le résultat, on l'a en partie aujourd'hui. 20 ans de selfie, 11 janvier 2000, 11 janvier 2020, résumé en 8 minutes 17 sur la petite musique que vous êtes en train d'entendre. Alors on regarde les portraits qui défilent littéralement à toute berzingue, on est vraiment hypnotisé et on voit Noah Kalina qui change d'apparence. Alors il a les cheveux courts, il a les cheveux longs, il a de la barbe, il a plus de barbe, il a les joues qui se creusent, on voit les premières rides qui apparaissent évidemment. Au total, il a pris 7263 photos de lui-même. Alors faites pas le calcul, je sais, il en manque quelques-unes parce que normalement on devrait être à 7300, 365 jours fois 20 ans. Mais il a perdu certaines de ses photos et puis parfois il ne pouvait pas les prendre. Mais le résultat, vraiment, je vous encourage à aller voir, c'est une œuvre d'art. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aperçoit aussi le décor derrière lui. Alors au début, on a une chambre d'étudiant, toute simple, avec un gros ordinateur.
Puis après, un penthouse de 600 mètres carrés sur
après,
Madison Avenue.
Il y a le petit appart de jeune adulte et puis enfin, il y a son atelier de photographe aujourd'hui. Et puis, on voit des gens aussi qui apparaissent parfois en arrière-plan. Alors on voit des copains, des copines, des gens qui traversent la vie du photographe. Et avec la musique, j'avoue que ça donne un petit côté... Un peu mélancolique.
Mais dès le départ, il avait ce projet que ce serait au bout de 20 ans qu'il révélerait le truc ou il faisait un peu au jour le jour en se disant qu'un jour ça servirait peut-être?
Absolument. Il continue d'ailleurs toujours aujourd'hui. Il a 40 ans et il continue à prendre des photos tous les jours. L'objectif, c'est de prendre des photos de lui jusqu'à sa mort, jusqu'à sa disparition. Alors, il a donné des envies à plein d'internautes, Noah Kalina, alors des jeunes qui l'imitent aussi maintenant sur YouTube. Et puis, il y a même eu les Simpsons, le célèbre dessin animé, des Simpsons qui ont fait une parodie un peu de sa vidéo avec Bart. Le gamin de la famille, Bart, qui grandit littéralement en accéléré à l'écran. Et on l'a interrogé aussi,
c'est
Noah
très
Kalina.
Émouvant à voir, en plus, c'est assez émouvant.
On l'a interrogé il y a quelques temps là-dessus, sur un premier bilan 20 ans après. Il dit que plus on grandit, plus le temps passe vite. Ne m'en parlez pas.
Voilà. On va lui en parler. Anissa Mihanès, je vois vous lever le doigt. Vous, vous avez tenté l'expérience, mais le problème, c'est que comme vous n'avez pas changé depuis vos 20 ans, vous êtes exactement le même, oui. Ça ne marche absolument pas.
Non, mais et en fait, il le fait tous les 10 ans. Enfin, tous les 10 ans, il fait la vidéo.
Ah,
il fait photographie tous les jours, il fait tous les 10 ans. Et je me souviens, il y a 10 ans, ça va inspirer beaucoup de gens. Tout le monde rêvait de se voir évoluer. Et je me suis dit, je prendrai mon fils et je le ferai comme ça.
Et vous l'avez fait ?
J'ai tenu 4 jours.
Ouais. C'est marrant, j'ai fait pareil. J'ai pas tenu non plus. Je vais faire pareil.
Le plus dur, c'est de tenir, en fait, dans ce genre de défi.
Jamais réussi.
Merci beaucoup, Jean-Philippe. Les trois points tomberont-ils dans votre escarcelle? La réponse ne va plus tarder maintenant.
Europe 1.
À suivre, la période des fêtes a été fatale à votre gainage abdominal. La galette des rois vous a porté le coup de grâce calorique et une texture proche de la mousse au chocolat. Bonne maman a remplacé vos tablettes. Pas de problème, pour vous reprendre en main, notre expert gastronomique Olivier Pouls, dit Mister Detox, vous a concocté une recette idéale pour vous remettre de l'épiphanie. La terrine de cochon. A tout de suite pour Délice in Extremis, votre recette pas light de dernière minute.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Qui connaîtra une gloire aussi intense qu'éphémère? Qui rentrera chez lui ce soir sur la musique de Star 90 alors que ses collègues d'Europe 1 lui feront dans le hall une haie d'honneur? Qui au contraire rejoindra le parking la mine basse sous les huées de la rédaction? L'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes entre dans sa dernière ligne droite. Nous saurons bientôt qui sera élu chroniqueur du jour, mais vous le savez, désormais ici on note également l'invité qui doit non seulement dire du bien de l'émission mais aussi nous proposer une performance. Par exemple, mon cher Frédéric Bourali, vendredi, le comédien Thibaut de Montalembert nous a proposé une impro à l'harmonica.
Lui.
Frédéric Bourali, voici une flûte à bec, on vous écoute.
Oh, les enfoirés. Moi je joue la guitare depuis 30 ans.
Ah, c'est vrai, vous auriez pu
en plus.
Ah, ben, vous n'avez pas votre guitare dans votre poche,
ben,
comme l'autre, l'harmonica dans sa poche.
Ah, est-ce que vous pouvez nous faire une petite vidéo une fois que vous êtes avec votre guitare, nous l'envoyer?
Et on la met sur
Europe
1.fr.
Ah, ça serait génial.
Ça serait un beau cadeau.
Mais c'est vrai.
On aime bien les cadeaux, les pots de bain.
Si vous voulez, avec plaisir.
Alors, bien sûr. Frédéric Bourali, dans la série
Scène de... D'ailleurs, dans Scène de ménage, je joue souvent la guitare.
C'est vrai.
Et c'est vrai que je ne me suis pas posé la question, mais vous n'êtes pas doublé pour jouer de la guitare.
Non. C'est très réaliste. C'est le seul truc, pendant tout le reste, je suis doublé, mais pas la guitare.
Alors, Frédéric Bourali, dans la série Scène de ménage, vous êtes maire. Dans la série Peur sur le lac, actuellement diffusée sur TF1, à retrouver jeudi d'ailleurs, vous êtes préfet.
Ouais.
Mais dans la vraie vie, vous êtes aussi quelqu'un d'engagé auprès d'associations pour les enfants, pour la défense du droit des femmes. On vous a vu aussi cet automne soutenir les personnels hospitaliers.
Ouais.
Pour vous, c'est important, cette notion d'artiste engagé. Vous ne fermez pas votre gueule.
Enfin, je suis un peu ma gueule, mais moi, je fais ça bien avant d'être connu, de toute façon. Mais
c'est important de le préciser.
Ouais, non, bien sûr, c'est surtout les causes que je soutiens qui sont importantes plus que moi. Alors moi, ce qui est super quand on a un peu la lumière, c'est de pouvoir s'en servir pour que les associations soient connues, comme l'Enfant Bleu qui s'occupe de l'enfance maltraitée. Il y a un peu de boulot, hein. J'en parlais à quelques amis prêtres. Puis je suis parrain aussi de Hélal, l'association Hélal, qui s'occupe de cette maladie, saloperie de maladie qui s'appelle le colistrophie. Enfin bref, bien sûr, j'essaye de pas trop en faire pour vraiment les faire bien. Malheureusement, je suis obligé de dire non à beaucoup de gens parce que je leur dis à chaque fois, écoutez, si je vous dis oui puis que je suis jamais là,
ça servira à rien.
Ouais, c'est important, mais c'est important pour tout le monde, hein. C'est pas parce que c'est moi, c'est tout important pour tout le monde d'aider les autres, c'est normal.
Est-ce que la notoriété a changé votre vie, ou est-ce que finalement, comme elle est arrivée un peu sur le tard, la grande notoriété vis-à-vis du grand public, ça vous a pas transformé en tant que...
La notoriété, moi, depuis que je suis connu, j'ai perdu tous mes amis, ma femme s'est barrée, j'ai changé de vie complètement. Ouais.
Non, c'est la même depuis 30 ans.
Putain, mais je dis ça, mais heureusement que j'ai pas changé de vie. Ouais. Merde. Ouais, j'ai gardé mes amis, les mêmes, et puis bien sûr, j'ai pas changé de vie du tout. J'ai pas du tout l'intention. Ça va très bien comme ça. Je continue à faire mes courses au Champion à côté de chez moi.
Mais là, au Champion, déjà, ça s'appelle plus Champion depuis au moins les années 90. C'était l'époque où je regardais Dragon Ball Z que j'allais au Champion.
C'est vrai,
donc
enfin bref.
Vous dites, j'aime les choses simples, les copains, une bonne table, du vin, ça me suffit.
Ouais.
Vous aimez cuisiner, Frédéric Bourali?
Ouais, j'aime bien, mais je le fais pas assez. C'est ma femme qui est géniale, elle fait ça super bien.
Elle fait les costumes, elle fait la bouffe, décidément. Vous êtes bien tombé. Hein.
Ouais, j'ai eu la chance. Ouais, pas pour ça. J'adore ça. Puis surtout, et puis la bouffe, c'est les amis, quoi. Ça se partage.
À vos côtés, Frédéric, justement, nous a rejoint un homme qui, comme vous, aime les choses simples, une bonne table, du bon vin. D'ailleurs, c'est rarement les titres qui l'épatent chez nos invités.
Bonjour, Éric Orsenna. Je suis vraiment très impressionné d'être là. Bon, académicien, Goncourt, très bien, ça. Mais surtout, chevalier du Tastevin.
Eh oui, c'est ça qui est important, Olivier Pouls.
Mais
bonjour.
Il était très fier lui-même.
Bien sûr. Chaque jour, Olivier, vous nous livrez une recette de dernière minute pour bluffer nos proches au dîner. Au menu ce soir,
Mais une petite terrine. Parce que je suis assez frappé, mon cher Frédéric ou José, je ne sais pas comment je dois vous appeler. Ouais. Mais quand on regarde la série, vous êtes quand même souvent à table. Hein. Vous mangez beaucoup.
Ouais. C'est à votre demande d'ailleurs.
Non, mais sans déconner, on mange vraiment. C'est-à-dire qu'on a des vrais plats. Non, c'est pas chiqué. On veut manger vraiment.
Alors, quand vous refaites la prise 25 fois, vous mangez 25 fois le truc.
Non, mais on ne mange pas tout le temps pendant la prise. Mais des fois, on ne va pas à la cantine après. Ouais, c'est vrai. On a mangé. Ouais, c'est vrai.
Eva,
j'ai eu la chance d'aller sur le tournage de Scène de ménage.
Qu'est-ce que vous êtes allé foutre sur le tournage?
Mais pour faire un reportage sur les coulisses et faire un reportage notamment sur les ateliers d'écriture qui sont assez impressionnants. Et je vous assure que la première chose à laquelle vous pensez, c'est que ça sent hyper bon. Ouais. Parce que les gens cuisinent vraiment les plats que vous mangez dans les sketchs.
Par exemple, il y a un sketch où je dois bouffer de la pizza. Il y a des gens le matin, ils viennent, il faut une vraie pizza. Les spaghettis,
c'était vrai.
Ouais, les spaghettis, c'était vrai. Non, mais c'est important. Les gens ne savent pas qu'on mange, mais ils le sentent. Avec Valérie, on a vraiment été très à cheval là-dessus. C'est important de faire les choses vraies.
Oui, parce que Isabelle Nanty racontait par exemple qu'ils sont obligés de manger des frites sur le tournage.
Qu'elles
sont pas bonnes, qu'elles sont froides, qu'elles ont la ras-le-bol de manger des frites. Mais vous, ça va, vous continuez à manger avec plaisir.
Je
vous offre une petite recette, ça me ferait plaisir de l'avoir un jour à l'antenne. Donc, si vous
voulez la mettre au
cuisinier,
une
petite terrine de boudin noir et pommes.
Ça
serait pas mal, ça, pour l'apéro, un apéro entre copains, c'est pas mal.
Ça peut se faire.
Et en plus, c'est hyper facile à faire. Donc, vous allez acheter forcément du boudin noir, évidemment. Il faut savoir que le boudin noir, c'est l'une des plus vieilles charcuteries de l'histoire de l'humanité.
Ah bon ?
Les Grecs faisaient déjà du boudin noir, figurez-vous.
C'est plus vieux que le saucisson.
Ah, c'est bien plus vieux que le saucisson. Ouais. Alors, c'est composé essentiellement de sang de porc, avec un petit peu de gras et de viande de porc dedans. Ça, vous l'achetez. Ça a été pré-cuit, donc il n'y a même pas besoin de le recuire. Vous allez acheter quelques pommes, on va dire 500 grammes de boudin noir, noté pour la production, donc. deux pommes. Alors, des pommes, prenez des pommes à compote, des reines des rainettes, par exemple. Mmh. Vous coupez vos pommes en petits morceaux, vous les citronnez très légèrement pour le paquet noircisse. Vous les faites revenir dans un petit peu de beurre avec un tout petit peu de sucre. Vous les faites compoter légèrement, mais en gardant un peu de texture. Il faut que ça garde un peu de mâche. Et puis, vous allez récupérer la chair qui est contenue à l'intérieur des boudins noirs. Vous enlevez le boyau. Et vous, dans une terrine, on va faire un montage. Donc, on va mettre du boudin noir qu'on aura donc bien écrasé, des pommes, on remet un peu de boudin noir, des pommes, etc. On peut rajouter quelques épices si on a envie, une petite pointe de cannelle par exemple. Mmh. Et on va ensuite refermer la terrine, on va la filmer et on va la mettre au moins une dizaine d'heures au frigo.
Quand vous dites on va la filmer, c'est-à-dire
Avec une caméra, avec un simple papier film.
J'aime bien que vous détailliez les termes techniques, parce que moi quand vous dites il faut réserver les oignons, j'appelle pour réserver les oignons, donc je ne sais pas qui appeler en fait.
Donc là, on ne filme pas, on met un film plastique. Pas la peine de m'envoyer la vidéo après.
C'est ce que je serais capable de faire en disant c'est bon là Olivier.
C'est bon, je l'ai filmé.
Pendant 10 heures, vous imaginez.
Un film plastique, vous la réservez, alors là aussi c'est un terme, vous la réservez au frigo, c'est pas si vous n'appelez pas, vous la mettez dans le frigo. Tout simplement, de manière à ce qu'elle durcisse un petit peu. Et puis, du pain de campagne légèrement toasté, et vous mettez votre petite
Et qu'est-ce qu'on boit avec ça, Olivier ? Qu'est-ce qu'on boit ?
Un morgon.
Exactement.
Moi,
j'aurais pas dit mieux.
Et bien,
il est parfait.
Et je suis maître Juliena, pas déconner.
Voilà, un titre très honorifique, là aussi. C'est mieux qu'un César, quand même.
C'est différent.
Merci beaucoup, Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Ils se sont battus au service de votre culture G. Un seul de nos quatre journalistes en compétition repartira avec la couronne de chroniqueur du jour. L'insoutenable suspense touche à sa fin. Autant vous dire qu'Eva Rock est quasiment aussi impatiente que samedi soir à quelques minutes de rencontrer enfin Big Roger 75 avec qui elle chattait sur Tinder depuis 10 jours.
Oh là là !
A tout de suite pour la grande finale.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Quatre journalistes, une seule couronne. Qui aura l'insigne honneur de s'asseoir, non pas sur le trône de fer, mais sur mes musculeuses cuisses ? L'heure du dénouement a sonné dans l'équipe est sauvage. Avant de passer au vote, j'aimerais remercier notre invité Frédéric Bourali, alias José, dans Scène de ménage, avec qui nous avons passé un merveilleux moment. Frédéric, on vous souhaite que la pièce Le Muguet de Noël remporte un franc succès au Théâtre Montparnasse à partir du 30 janvier.
Merci.
On souhaite surtout que la justice n'exhume jamais certains de vos doublages dans Dragon Ball Z. Doublages borderline qui ont contraint une génération d'enfants innocents, dont moi, à entreprendre très tôt une psychanalyse. Je me souviens notamment d'un combat entre Trunks et Mister Satan, un peu particulier.
Alors voilà, je voudrais que tu me caresses la joue. Mais très délicatement, hein, ça va te porter chance. Une petite caresse sur la joue, tu veux bien ?
Si tu me frappes trop fort, tu auras une fessée.
Espérons qu'il y ait prescription, sachant que Trunk avait 8 ans dans cet épisode. Donc voilà, c'était quand même particulier.
C'est des choses que j'ai reproduites après dans Scène de ménage avec Valérie Carcinti, parce qu'on a une libido à base de déguisement, hein, beaucoup. Hein.
Okay, voilà. En tout cas, les amis, l'heure est venue de passer au vote. C'est le qui tout double. Chacun d'entre vous a 10 secondes pour plaider sa cause. Anis Mbida, pourquoi Frédéric Borali devrait-il voter pour vous et vos cookies?
Je pense que la chronique ne va peut-être pas intéresser Frédéric, mais elle va intéresser José, parce que je sais que sur son ordinateur, il y a plein de cookies qui clignotent dans tous les sens, des fenêtres qui s'ouvrent de partout. Et je vais donner une astuce pour éviter que ça continue indéfiniment.
Ah, mauvaise chute, mais le début était bon, la chute n'était pas bonne. Axel de Tarlet, le roi de la chute justement, pourquoi voter pour vous?
Exactement, parce que je crois que je vous ai fait une bonne première impression, Frédéric, et comme on dit, il faut toujours se fier à sa bonne première impression.
C'est ça.
Il me regarde bizarrement.
Mais la deuxième, en revanche, n'est pas très bonne, Frédéric, ouais, on peut le dire. Hein.
Ouais. Non mais, c'est une blague sur un Schadenfreude.
Non, ne vous enfoncez pas. Ne vous en pensez pas, plutôt demander à Virginie Fulpin pourquoi voter pour vous, Virginie.
Et ça va me priver du trophée. Ça,
elle est bonne celle-là.
Est-ce que je peux défendre mon sujet?
Du moment que vous prenez la parole derrière ça, c'est formidable.
Bon, si on veut éviter que les Américains n'exportent leurs règles sportives dans notre bon vieux foot, il faudrait que je sois pas toute seule à protester. Voilà, je voudrais être solidaire avec moi.
Solidaire de la cause.
Mais c'est vrai.
Jean-Philippe Ballas, pourquoi voter pour vous et vos 20 ans de selfie?
Mais d'abord, je suis très mal à l'aise vis-à-vis de mes camarades. Vous savez qu'on passe à la radio, hein, en vrai. Hein. La façon dont vous vendez vos sujets, là, pardon. Mais enfin, bon. Je vous ai démontré qu'aujourd'hui, on peut faire de l'art avec des selfies. Et puis, c'est le temps qui passe. Et les amis, ça nous concerne tous.
Ah, voilà. Ça, c'est sûr. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Il y a 1% d'écart entre Axel de Tarlet et Anis Mbida.
Mais vous ne truquez pas un peu les résultats pour faire croire
qu'il y a 1% d'écart entre les deux.
C'est vrai. Entre Anis Mbida et Axel
de Tarlet.
Ouais. Eh oui, en faveur d'Anis.
Donc, on s'en fout, j'ai perdu.
Ah oui, pour l'instant, t'as perdu les points du public. En ce qui concerne, je donne mon pan aujourd'hui à Jean-Philippe Ballas, car il a réussi à m'émouvoir avec cette histoire de selfie. Et j'ai envie de faire pareil avec mon fils, même si en fait, peut-être qu'il n'est pas d'accord. Il faudrait que je lui demande son avis d'abord.
Vous allez tenir 3 jours.
Merci. Je vais tenir 3 jours. Vous le savez ici, c'est l'invité qui a le dernier mot, Frédéric Borali, monsieur le maire, qui, selon vous, parmi les journalistes d'Europe 1, mérite vraiment d'être élu chroniqueur du jour.
Mais j'ai bien aimé le truc sur les cookies, là.
Vous avez aimé le truc sur les cookies? Le truc sur les cookies, ce qui fait qu'Anis Mbida s'en sort toujours. Il arrive toujours à gagner.
Et il remporte 5 points aujourd'hui, au total.
Effectivement, grande victoire aujourd'hui d'Anis Mbida, qui va venir récupérer sa couronne sous les acclamations du public inexistant aujourd'hui. Donc c'est vous qui allez faire les applaudissements. Anis Mbida, 97e vainqueur de l'équipe sauvage. On remercie chaudement Frédéric Borali, que vous retrouvez tous les soirs
Merci
sur M6
beaucoup,
dans Scène de ménage. Et à partir du 30 janvier au Théâtre Montparnasse.
J'ai peur, mais j'ai hâte.
Dans le Muguet de Noël avec Lionel Astier, Alex Siri et Jean-Luc Porras, mis en scène de Jean-Luc Moreau, qui sont aussi formidables que vous.
Ouais, non, mais ils sont bien mieux que moi.
Ils
sont formidables, vraiment.
Merci également à mes équipiers du jour, Eva Roch, Virginie Fulpin, Anis Mbida, Jean-Philippe Ballas et Axel de Tarlet. L'équipe sauvage revient demain 16h.